France Culture, les romans qui ont changé le monde, Mathias Sénard.
Les romans changent-ils le monde? Pendant deux semaines, nous explorons 10 œuvres dont on peut assurer qu'elles ont changé quelque chose à la littérature et au 20e, voire même au 21e siècle, en compagnie d'autrices et d'auteurs, de spécialistes et de spécialistes de la littérature d'hier et d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre voyage estival de roman en roman, de monde en monde. En 1976, année de la parution en Yougoslavie de Un tombeau pour Boris Davidovitch de Danilo Kish, qui paraît ensuite en France en septembre 1979 aux éditions Gallimard, traduit du serbo-croate par Pascal Delpech. Il s'agit de 7 chapitres d'une même histoire. Cet récit, en réalité, rejoint par une seule obsession, celle de la façon dont la dictature détruit les hommes. Objet de scandale politique à sa sortie en Yougoslavie, rompant avec l'esthétique qui avait été la sienne jusque-là, Un tombeau pour Boris Davidovitch s'inscrit comme un des moments clés, non seulement de l'œuvre de Kish, mais surtout de la littérature européenne dans son ensemble. Pour en parler, nous avons la chance d'avoir avec nous 3 éminents quichiens, plutôt que quichistes, et notamment Pascal Delpech, bonjour.
Bonjour.
Pascal Delpech, vous êtes la traductrice d'une grande partie de l'œuvre de Danilo Kish, et donc d'Un tombeau pour Boris Davidovitch. Vous avez partagé sa vie, et vous venez de traduire de l'anglais cette fois-ci, une passionnante biographie de Kish aux éditions Noir sur Blanc, œuvre de Mark Thompson, et intitulée « Extrait de naissance, l'histoire de Danilo Kish ». Nous avons aussi avec nous Jean-Arnaud Derrins, spécialiste des Balkans, de ces territoires qu'on a l'habitude de regrouper sous le nom d'ex-Yougoslavie. Vous êtes le fondateur et rédacteur en chef du site indispensable Le Courrier des Balkans, que lisent avidement et assidûment tous les passionnés de la région. Et vous venez de publier, en collaboration avec Laurent Gélin, Les Balkans, carrefour sous influence, Les Balkans en sans question, aux éditions Talendier. Nous avons aussi avec nous Olivier Maillard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain et enseignant en cinéma et littérature, traducteur, critique littéraire, et vous publiez aux éditions Les Défricheurs un essai indispensable pour qui s'intéresse au tombeau pour Boris Davidovitch, intitulé « La roue de l'infortune ». Mais si vous le voulez bien, commençons comme chaque matin par entendre une première lecture, le début du texte, Un tombeau pour Boris Davidovitch, traduit du serbo-croate par Pascal Delpech et lu par la comédienne Élodie Hubert.
Ce récit, né dans le doute et l'incertitude, a le seul malheur que certains nomment chance d'être vrai. Il a été consigné par des mains honnêtes et d'après des témoignages sûrs. Mais pour atteindre à la vérité dont rêve l'auteur, il devrait être raconté en roumain, hongrois, ukrainien ou en yiddish, ou plutôt un mélange de toutes ces langues. Alors, issu du hasard et des profondeurs troubles de l'inconscient, jaillirait de l'âme du conteur quelques mots russes, tantôt doux, comme Teliatina, tantôt durs, comme Kinjal. Si le narrateur pouvait donc atteindre à cet instant de bouleversement babylonien, inaccessible et terrifiant, on pourrait même entendre les humbles prières de Anna Krizovska et ses horribles supplications, dites en roumain, en polonais, puis en ukrainien, comme si la question de sa mort n'était que la conséquence d'une tragique méprise. Comme on pourrait entendre son délire se transformer, à l'instant du dernier spasme et de l'apaisement, en prière pour les morts, dites en hébreu, langue des commencements et de la mort.
Nous voulons entendre le début du premier chapitre de la première histoire intitulée « Un couteau au manche en bois de rose » du tombeau pour Boris Davidovitch de Danilo Kish. Pascal Delpech, vous avez traduit ce texte et là quand on rentre, quand on l'entend, cette beauté, ce mélange des langues, qu'est-ce que c'est que cette stratigraphie un peu de mots, de matière, de langage assez extraordinaire. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous vous revoyez en train de traduire ce début?
Oui, bien sûr. C'était, je dois dire, ma première traduction. J'étais débutante, ma connaissance du serbo-croate n'était pas encore parfaite, mais j'étais très heureuse d'essayer de faire cela puisque les éditions Gallimard avaient accepté mes 25 pages d'essai. Donc je me suis lancée dans l'aventure, mais j'étais très consciente de la difficulté. Lorsqu'on est un lecteur passionné, on se rend tout de suite compte de ce style très dense, de ces ellipses, de ces concentrations, de cette précision, de cette économie de moyens. Et rendre ça dans une autre langue n'est bien sûr pas très aisé. Je dois dire aussi que j'avais l'immense chance de connaître l'auteur, qui était lui-même un très, très grand traducteur. Danilo Kish a en effet traduit des milliers et des milliers de vers du russe, du français, du hongrois, ainsi que certains livres de prose, comme L'Otréamon, par exemple. Donc, j'avais à côté de moi à la fois un dictionnaire vivant, un écrivain et un traducteur pour guider mes premiers pas.
Mais est-ce que c'est pas justement aussi un handicap, parfois, que d'avoir quelqu'un qui connaît si bien la langue d'arrivée ?
Ah, moi, je ne l'ai jamais senti comme un handicap, au contraire, comme une grande chance. Je lui ai toujours soumis la dernière version de mes traductions, par oral, parce que je lis toujours mes traductions à voix haute à la fin. Et lui, il était comme toujours paresseusement allongé avec un paquet de cigarettes à côté et un petit verre. Et moi, tout haut, je lisais la traduction. Et lui, par moments, intervenait. C'était vraiment la version définitive pour moi. Pourquoi t'as mis ça ? Pourquoi tel adjectif ? Pourquoi tel verbe ? Si je savais répondre, il me disait « ça va ». Si je manquais de réponse, il fallait que je réfléchisse de nouveau. Donc je savais que c'était un véritable travail, un auditeur tout à fait exceptionnel et qui avait une connaissance énorme du français. Et donc ça a été vraiment pour moi, dans toutes les traductions que j'ai faites du temps de son vivant, un exercice absolument enrichissant et passionnant.
Parlons un peu de Danilo Kish lui-même avant de rentrer dans le détail du tombeau pour Boris Davidovitch. Donc Danilo Kish est né en Hongrie à Subotica, mais il a grandi ensuite au Monténégro. Il est né d'un père juif qui est mort à Auschwitz. Jean-Arnaud Derain, est-ce que c'est pas aussi cette diversité dans les origines? Pascal Espèche.
Il est né en fait en Voïvodine, qui n'était pas la Hongrie. Et ensuite, après le massacre de 42 à Novi Sad, où son père a failli périr, comme beaucoup d'autres juifs et serbes dans le Danube, son père a décidé d'emmener sa famille en Hongrie en 42. Donc entre 42 et 47, il a vécu en effet en Hongrie, dans une très très grande pauvreté. Et son père a été emmené à Auschwitz en 44. Et sa mère, qui était monténégrine, a essayé de retrouver sa famille par l'intermédiaire de la Croix-Rouge. Et ils ont été rapatriés au Monténégro en 47.
Mais pour répondre à Mathias, je pense oui, il y a cette diversité des origines. Danilo a beaucoup écrit, je crois, sur la découverte du Monténégro, qui pour lui a été le soleil des montagnes, des plateaux, des causes karstiques après la plaine de Voïvodine. C'était deux univers totalement différents. Ensuite, assez vite, il y aura son déplacement à Belgrade et sa découverte aussi d'un autre monde. Mais j'ai envie de dire, ce parcours, Danilo Kish a su le sublimer, le magnifier, en faire une matière littéraire. En réalité, je vais peut-être être provocateur, mais si on se replace dans le contexte de la guerre et de l'immédiate après-guerre, c'est finalement très banal. Combien de gens ont été déplacés? Combien de gens ont grandi, vécu 2 ans là, 3 ans là, et puis ont dû partir? La différence, c'est que Danilo Kish, de tous ces exodes croisés, a su en faire de la littérature, ce que bien sûr, tout le monde n'a pas su faire.
Mais aussi, ça lui donne une position, peut-être qu'il vient de la périphérie, c'est-à-dire que il est bilingue, bon, il parle le hongrois, il lit le hongrois, sa langue d'écriture et de culture, c'est le serbo-croate, mais il n'est pas des centres, ni de Zagreb, ni de Belgrade. Est-ce que ça lui donne pas quand même un côté un peu du dehors?
Je pense que c'est un petit peu compliqué de parler d'un centre à propos du serbo-croate, parce que le serbo-croate a toujours été une langue polycentrique. À la limite, la norme littéraire du serbo-croate, historiquement, vient plutôt des régions d'Herzégovine, du Monténégro. Après, il y a des parlers différents à Belgrade, à Zagreb, où c'est également assez différent. Mais le serbo-croate est par définition une langue polycentrique. Ensuite, je crois que Danilo Kish a toujours insisté sur le fait que sa langue était le serbo-croate, cette langue qui théoriquement n'existe plus, même si beaucoup d'écrivains s'en retrouvent orphelins, enfin, écrivant, pratiquant d'une langue qui officiellement serait une langue morte. Bon, après qu'il y ait donné naissance à différentes langues qui portent différents noms, même si bien sûr la base est toujours la même. Il y a quelques années, il y a une déclaration qui a été adoptée à Sarajevo pour une langue commune. Cette langue commune, c'est l'ancien serbo-croate, mais en reconnaissant vraiment son caractère polycentrique. Je crois que ça, c'est très important, tout comme l'attachement de Danilo Kish à cette langue. Est-ce qu'il était des marges? J'avoue que c'est une question compliqué parce que je ne suis pas certain que, même si Belgrade était bien sûr le centre politique, le centre intellectuel vers lequel il est arrivé, je ne sais pas dans quelle mesure il avait un sentiment d'être des marges. Mais peut-être que Pascal...
Des marges, non. Mais comme il l'a écrit lui-même, maintes fois, bon, on le voit dans son œuvre, mais il en a parlé beaucoup dans son gros essai « La leçon d'anatomie » qui est publié chez Fayard. C'est surtout sur le plan culturel que c'était quelqu'un de très particulier dans ce pays, d'un père juif hongrois et d'une mère monténégrine. C'est une combinaison qu'il n'a jamais retrouvé ailleurs. Bon, des mères juives avec des maris monténégrins, oui, il y en avait. Les déplacements de population, comme le dit Jean Arnaud de Reims, cela faisait. Lui, c'était tout à fait exceptionnel. Et le fait qu'il ait grandi à la fois dans la zone, on va dire, hongroise de Voïvodine, puis ensuite en Hongrie, où il a parlé hongrois, où il est allé à l'école hongroise, où on l'a mis d'office au catéchisme. La famille n'était pas religieuse. Il n'y avait pas de pratique ni juive, ni orthodoxe dans la famille. Mais sa mère lui lisait quand même des poèmes orthodoxes, faisait une petite prière le soir. Ensuite, il se retrouve au Monténégro. Il a 12 ans. Alors là, comme dit Jean Arnaud de Reims, c'est un monde totalement différent qu'il assimile là aussi dans sa famille, chez son oncle qui est un intellectuel et qui aura une influence évidemment sur lui parce qu'il possède une très grande bibliothèque. Et là, il se retrouve dans le monde patriarcal du Monténégro, orthodoxe, avec des coutumes, non pas religieuses, mais disons des coutumes culturelles, dans la famille, dans la maison. Donc tout ceci fait en effet un mélange que lui, bien sûr, par la suite, analysera d'abord comme une richesse et non pas comme un problème. Et dans sa lutte contre les nationalismes en particulier, il en fera tout ce qui lui a été apporté dans la vie. Et le fait qu'il est en cela et qu'il a été dans cette époque de politique très nationaliste de plus en plus dans son pays, seul, particulier, indépendant et donc détesté.
Olivier Maillard, quand vous lisez un tombeau pour Boris Davidovitch, est-ce que vous retrouvez justement cette diversité d'influence dans son écriture ?
Alors effectivement, déjà le roman est un roman européen d'une certaine manière. Il y a plusieurs scènes de cette même histoire qui sont racontées. Il y a des épisodes qui vont mettre en scène des Irlandais, des gens d'Europe centrale, des Russes, il sera question des Anglais, etc. Donc de toute façon, on a le sentiment d'une sorte de grand brassage, souvent douloureux, hein, souvent qui a lieu effectivement en rapport avec les guerres, les déplacements, etc. Et qui plus est, la question des langues dont vous parliez tout à l'heure est évoquée dès la première histoire avec la mort du jeune personnage, de la jeune femme qui, quand elle est assassinée, je ne sais pas jusqu'à quel point il faut raconter l'histoire pour pas gâcher pour les auditeurs.
On peut y aller quand même.
Donc il y a cette jeune femme qui est accusée d'avoir trahi la cause révolutionnaire et qui sera assassinée et qui, en mourant, se met de manière... presque babélienne, où on peut penser à une Pentecôte affreuse, se met à parler toutes sortes de langues qui reviennent en elle, du yiddish, de l'ukrainien, etc., comme si elle était toutes les langues d'Europe à un moment. Enfin, donc, c'est complètement, on retrouve ça à différents niveaux dans le roman lui-même.
Donc ce tombeau pour Boris Davidovitch, vous avez dit roman, il s'agit de 7 chapitres d'une même histoire. Nous allons entendre Danilo Kish lui-même, dans une archive de 1985 de l'émission Agora, nous parler de ce que sont ces 7 chapitres.
Le contenu de ce livre, ce sont les révolutionnaires européens qui sont allés vers la troisième Rome qui est Moscou et qui ont péri là. Évidemment, j'ai mis ce sous-titre, 7 chapitres de même histoire, qui veut dire deux choses, histoire comme écriture, n'est-ce pas, comme nouvelle, 7 nouvelles, mais en même temps histoire comme histoire, et j'ai voulu dire par ça que notre histoire des Yougoslaves ressemble à une histoire de n'importe quel pays communiste par le nombre de révolutionnaires qui ont péri aussi en Union soviétique.
Donc l'histoire, 7 chapitres d'une même histoire, c'est-à-dire la grande et la petite, et en même temps, une histoire de la Yougoslavie, alors que finalement, Olivier Maillard, je reviens à vous, la Yougoslavie est assez peu présente en tant que telle parmi ses personnages dans le récit.
Oui, effectivement, il y a cette impression d'une internationale et d'un côté babélien. Donc on a plusieurs strates qui se superposent, en fait, à la fois la réalité du monde communiste et du mouvement communiste et de l'emprise de l'URSS sur ces mouvements, et puis aussi une réalité centre-européenne, en fait, c'est-à-dire de différentes cultures, différentes populations, différentes langues qui s'entrecroisent. Et les deux, d'ailleurs, se combattent ou coexistent, mais on a différents niveaux, effectivement. Et la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie y est, mais elle n'est pas forcément le territoire le plus représenté. Il y a beaucoup plus d'histoire en Russie, enfin, en URSS d'alors, par exemple, qu'en ex-Yougoslavie.
Pascal Delbège.
Oui, en effet. D'abord, bien sûr, l'Union soviétique est très présente. Staline n'est jamais nommé, sauf sur la coque d'un bateau. Donc ça, c'est une des écritures de Kish. Et à la fin, il y a une dernière nouvelle où un poète fictif se retrouve en 47 au Monténégro au moment des cérémonies qui sont consacrées au grand poète évêque Njegoš du Monténégro. C'est tout. Sinon, toutes les autres nouvelles se situent dans cet espace centre-européen et soviétique.
Et pourtant, on vient de l'entendre dans l'archive, pour lui, ça parlait quand même très clairement aussi de la Yougoslavie.
De toute façon, et c'est ça qui a posé problème, lorsque le livre est sorti, les premières critiques ont été absolument extatiques, y compris dans l'organe du Parti communiste qui a parlé d'une maestria inégalée dans ce pays, enfin, etc., etc. Et l'affaire a surgi quelques mois plus tard.
On reviendra sur l'affaire.
Très savamment ourdée. Mais c'est vrai que certaines personnes qui voulaient absolument trouver des problèmes dans ce livre ont interprété ça comme étant une critique du communisme et non du stalinisme, comme visant de façon détournée le gouvernement ou les autorités yougoslaves, ce qui n'était pas du tout le but du livre.
Jean-Arnaud Derens, la Yougoslavie à ce moment-là a une situation particulière justement vis-à-vis du reste du monde socialiste.
Oui, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de niveaux différents auxquels se posent les choses. Bien évidemment, la Yougoslavie a rompu en 1948 avec le stalinisme, la rupture entre Tito et Staline, et à partir de ce moment-là, la Yougoslavie essaye d'inventer la voie d'un socialisme différent, basé sur deux grands piliers qui sont d'un côté l'autogestion et de l'autre le non-alignement. La Yougoslavie est à l'initiative du mouvement des non-alignements. Si l'on se place au moment de la parution du livre, dans ces années 70, on est vraiment dans un moment assez particulier. D'une part, la Yougoslavie est, je dirais, au plus haut de son prestige international, comme leader du mouvement des non-alignés, comme leader du mouvement de décolonisation qui secoue le monde entier. Tito est un dirigeant respecté dans la planète entière, qui accueille les stars de cinéma, de Cinecittà ou de Hollywood dans sa villa de Brioni, qui arpente le monde avec son somptueux yacht, le Galeb. C'est un côté communisme un peu bling-bling chez Tito. Bref, la Yougoslavie est vraiment à l'acmé de son prestige. Dans le même temps, ces années 70 sont un petit peu compliquées pour trois raisons. D'une part, c'est que le chef, Tito, n'est plus tout jeune. Il va mourir en 1980. Il y a déjà le diabète, il est déjà pas en très bonne santé, tout le monde le sait très bien, alors que rien n'est prévu pour la succession. Surtout, plus fondamentalement, il y a eu les événements de la séquence 68, 71, 72. En 1968, il y a un mai 68 étudiant à Belgrade qui réclame plus de socialisme, plus d'autogestion, mais qui va remettre en cause beaucoup d'aspects de fonctionnement du régime. Alors, le mouvement part d'un mouvement étudiant, ensuite sera repris par ce que l'on a appelé les dirigeants libéraux, c'est-à-dire des dirigeants du Parti communiste serbe, mais d'une aile plus libérale, proposant des réformes dans le cadre, bien sûr, de la Yougoslavie. Et puis, en 1971, il y a ce que l'on a appelé le printemps croate, qui est l'émergence d'une revendication nationale croate, même si elle ne remet pas en cause le cadre yougoslave, mais en tout cas, l'idée qu'il faut tenir mieux compte des particularités croates et donner à la République de Croatie plus de compétences. Il se passe également des choses au Kosovo. Donc, le régime est à la fois au fait de sa splendeur, très respecté, mais tout le monde sait très bien que tous les éléments de crise sont en train d'apparaître. Et puis, il y a une dernière chose dans ce qu'évoquait aussi bien Pascal Delpech qu'Olivier. C'est, voilà, Kish, dans ce livre, ne parle pas de la Yougoslavie. Mais critiquer le stalinisme dans la Yougoslavie antistalinienne, aucun problème, a priori. Sauf qu'il parle de ce qui s'est passé avant du mouvement communiste de l'entre-deux-guerres, à un moment où Tito lui-même était un agent très zélé de la GPU et du Comintern. Alors, sans faire une critique du régime ni du système, finalement, il parle de quelque chose dont il ne fallait pas trop parler, parce que tout le monde savait très bien qu'à l'époque, le meilleur des staliniens était sûrement Tito. Après, si on se réfère à la biographie de Tito, je pense notamment à la grande biographie qu'a publiée Jože Pirjevec, qui est traduit en français au CNRS, qui est un livre extraordinaire sur cette période-là. En réalité, Tito a pu rompre avec Staline parce que c'est sûrement le seul qui était sans aucune illusion sur le régime et les méthodes de Staline qu'il avait parfaitement compris, ce qui lui a permis de jouer avec les règles et de s'en sortir et de rester vivant. Rester vivant à Moscou quand on était communiste en 38, c'était loin d'être simple. Mais donc, en parlant de tout cela, sans, bien évidemment, Tito n'est jamais encore moins mentionné que Staline, mais il parle d'une période qui est une période dont il ne fallait pas trop parler.
Olivier Hermeyer, revenons sur ce mot de roman. Est-ce que c'est justement un roman des années 30? Comment s'articulent ces histoires entre elles?
Alors, c'est vrai que moi, je pars du principe qu'il y a écrit roman sur la couverture, donc je l'appelle roman, mais qu'on est désarçonné quand on découvre le livre, parce que ces 7 chapitres d'une même histoire sont relativement indépendants, peuvent faire ressembler l'ouvrage à un recueil de nouvelles, et il est parfois désigné comme un recueil de nouvelles. Mais je dois dire que moi, je l'ai lu après avoir lu un roman de Milan Kundera, qui est le Livre du rire et de l'oubli, qui est composé un petit peu de la même façon, c'est-à-dire 7 chapitres qui ressemblent à des nouvelles, mais qui forment un tout qui est quand même désigné comme roman. Donc j'avais, disons, une approche qui tendait à le considérer comme tel. Et ensuite, la manière dont il est composé, c'est un jeu de reprises et de variations, d'échos extrêmement subtils qui fait qu'on peut retrouver un personnage d'une histoire à une autre, et souvent pour manifester d'une façon à la fois comique et cruelle la réalité de la vie révolutionnaire de cette époque-là, c'est-à-dire que généralement le bourreau d'une histoire se retrouve au goulag à côté de celui qui l'a fait, envoyé au goulag dans le chapitre précédent, enfin dans l'histoire précédente, et aussi de manière plus subtile encore, avec des phrases qui se répètent d'un récit à un autre, ou des destins qui se répètent, notamment celui du fameux Boris Davidovitch, qui est comme une manière de revivre un destin d'un juif persécuté dans la Toulouse du Moyen-Âge, au moment de persécution antisémite, ce qui construit malgré tout, me semble-t-il, de manière assez musicale, un roman, effectivement, plutôt qu'autre chose.
Un roman choral, en fait, sur tous ces destins tragiques et persécutions. Pascal Delpech, est-ce que vous vous souvenez de comment est-ce que Danilo Kiche lui-même a imaginé ce roman? Est-ce que les récits sont venus?
Très, très bien.
Est-ce qu'il y avait une idée au départ?
Bien sûr, non. Il y avait une situation. Danilo Kiche est arrivé en 1973 à Bordeaux comme lecteur à l'université. Et très vite, dans ses discussions avec les jeunes Français à l'université, bon, qui étaient dans la grande majorité des jeunes de gauche, plus ou moins de gauche, mais de gauche, il s'est aperçu qu'il y avait un déni du goulag, du stalinisme. Il a essayé d'en parler et il a vraiment été choqué de voir à quel point ces jeunes qui avaient accès à toute l'information, à tout ce qu'il fallait, d'abord étaient ignorants et beaucoup d'entre eux ne voulaient pas savoir. Et donc, je me souviens très bien de discussions épiques qui n'étaient pas calmes, je peux vous dire, et où il essayait de leur expliquer que c'était pas comme ça, qu'il y avait des livres, il y avait des témoignages, ils pouvaient les lire, c'était traduit en français. N'oublions pas que le livre de Solzhenitsyn est sorti fin 73, c'est à ce moment-là. Donc, ces discussions étaient très violentes. On peut se souvenir aussi de ce qu'a dit Miłosz et pourquoi il a quitté la France. Il n'en pouvait plus d'être traité de réac, de facho, parce qu'on n'est pas de gauche comme les jeunes Français de l'époque. Et Kiche, comme d'autres, a été traité de réac, de facho, parce qu'il disait non, l'Union soviétique, c'est pas un paradis, vous ne savez pas ce qui s'y est passé, etc., etc. Et il en est arrivé à la conclusion que pour essayer de convaincre cette jeunesse, il fallait qu'il raconte des histoires. Donc il a décidé de raconter des histoires. Et c'est le tombeau pour Boris Davidovitch. Et il le dit lui-même dans une interview, il a décidé que la réalité du goulag était tellement énorme, géographiquement, par les dimensions, par le nombre de millions de morts, tellement fantastique dans sa réalité qu'il fallait qu'il écrive des nouvelles, des histoires fantastiques, mais sur la réalité. Et c'est comme ça qu'il a écrit le tombeau pour Boris Davidovitch. Il m'a d'ailleurs emprunté le fameux livre de Réau sur la Russe, qui a fait après problème en Yougoslavie, soi-disant il l'avait plagié. Et je me souviens très bien quand il me l'a emprunté, j'ai donc compris qu'il travaillait sur un nouveau projet, et c'est là qu'il a trouvé des documents, qu'il s'est mis à lire tous les livres qu'il a lus pour écrire ce livre. Mais c'était vraiment de la volonté d'écrire des histoires pour convaincre cette jeunesse française et occidentale qui ne comprenait pas ce qui s'était passé et ce qui se passait encore en Union soviétique.
C'est aussi un saut dans son œuvre, une transformation esthétique extrêmement importante. Et il écrit presque d'une nouvelle façon. Et justement, cette idée d'un roman en chapitre transforme vraiment son esthétique romanesque, Jean Moudérin. Ou pas? Non, vous avez l'air de dubitatif.
Non, si. Mais tout à fait. Enfin, moi, je suis pas un spécialiste de littérature, peut-être. J'ai juste envie, je sais pas pourquoi, de vous raconter comment moi j'ai lu ce roman. C'était mon premier voyage à Sarajevo. J'étais resté avant la guerre, assez longtemps, durant 2-3 mois à Sarajevo, et j'avais emmené peut-être 2 livres, dont Le Tombeau. Je me souviens très bien, même en reprenant le livre, là encore, de ma lecture et de ma découverte de ces différentes histoires en janvier 92 à Sarajevo, juste avant la guerre. Mais j'ai lu après, justement, les autres. J'ai lu après Le Cirque de Famille, qui lui aussi n'a quand même pas une forme romanesque tout à fait classique, avec là aussi 3 manières de raconter la même histoire. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à répondre à votre question sur la forme, mais je suis encore une fois pas un spécialiste de la dimension formelle.
Je peux rebondir, et notamment sur ce qu'a dit Pascal Delpech, que je trouve très beau sur cette idée de passer par le récit, raconter des histoires pour s'adresser justement à un public rétif, j'ai envie de dire, et passer par la séduction du récit. Il y a un côté Mille et une nuits, et je rejoins aussi quelque chose que Pascal Delpech a dit plus tôt, quand vous parliez de la traduction, sur le fait que ce soit une écriture si précise. Il y a un côté miniature, c'est un livre court, hein, c'est très sec, et effectivement, dans la nouveauté qu'il y a dans ce Tombeau pour Boris Davidovitch, il y a aussi cette écriture très fragmentaire, avec vraiment tout est chapitré, puis redécoupé par des petits fragments, etc. Et on a vraiment l'impression de fabliaux, de scénettes, de choses qui misent complètement sur la séduction de l'art romanesque, du récit, et même on pense à Scheherazade presque, hein, vu le contexte mortifère quand même. Hein. Il faut raconter pour survivre d'une certaine manière, ou en tout cas ici pour sauver de l'oubli les personnages dont il est question. Et en même temps, effectivement, de le faire d'une manière extrêmement ramassée, accessible. Ça n'a aucun sens de dire que c'est un livre facile à lire ou difficile, mais en tout cas, qui témoigne, voilà, avec des variations de moments comiques, de moments plus effrayants, de moments horribles. Et voilà, et de la séduction du récit, effectivement.
Oui. Nous allons écouter un peu de musique de cette glorieuse année 70.
Sur tous les chemins, qu'il pleuve ou qu'il vente, je passe des jours et des nuits. C'est la vie que j'ai choisie. Et j'ai pour jardin la plaine qui change sa robe au retour des saisons. Pour y faire des moissons d'horizon. Moi je n'ai pas de maison et malgré tout je crois, oui je crois, que mon ami le tzigane est un peu comme moi, tzigane, tzigane, pareil à l'oiseau de passage.
Nous voulons entendre Dalida chanter Tzigane, le destin justement. Voilà peut-être la main du destin, voilà peut-être le sens de ces 7 histoires en même temps. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est le destin dans Un tombeau pour Boris Davidovitch, Olivier Maillard?
Alors, il y a effectivement tout un jeu autour de cela qui permet d'ailleurs à Danilo Kish de citer à un moment Borges, hein, et de construire un certain nombre des récits en rapport avec Borges, avec cette idée des vies qui sont, enfin, comme si un destin était vécu à l'identique par plusieurs personnes. Boris Davidovitch, du titre, revit l'histoire donc d'un juif du Moyen-Âge, mais il est par ailleurs comparé à Hamlet, il est comparé à un fantôme, il revit par certains aspects, il est désigné comme un Christ révolutionnaire aussi, et on retrouve une idée assez borgésienne de cette manière pour ces individus d'être broyés et pris dans ce moment effroyable de la Révolution, qui fait qu'ils vivent une histoire qui a été écrite pour d'autres d'une certaine manière, et ils revivent des destins qui ont été déjà écrits.
Pascal Delpech.
Oui, je crois qu'il est important de dire que tous ces héros ici, qui sont des communistes honnêtes, passionnés, fervents, qui y croient, sont en effet broyés totalement. C'est l'anéantissement de ces gens-là. Mais ce qui est nouveau dans ce livre, comme vous disiez, d'abord il faut dire que Kish, d'un livre à l'autre, ne s'est jamais répété. Hein. Vraiment, son postulat le plus important. Et par rapport à son cycle qu'on appelle d'inspiration autobiographique qui était avant, bien sûr que ce livre est totalement différent, mais ces destins-là sont tous broyés, mais la méthode, entre autres les descriptions, il n'y a pratiquement rien sur la psychologie des héros. On ne sait pas pourquoi ils le font, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils ressentent, mais c'est un livre concentré sur l'action et sur les conséquences de l'action, les révolutionnaires, etc. Alors que ces autres livres étaient aussi bien Sablier que Jardin Cendre, plus tournés vers l'intérieur, tout à fait différents et écrits bien sûr de façon totalement différente. Même à l'intérieur de ce cycle de 3 livres d'inspiration autobiographique, ils sont totalement différents les uns des autres.
Ce qu'on voit très bien à travers ces 7 chapitres d'une même histoire, c'est justement, vous l'avez bien dit, cette action des révolutionnaires, comme si finalement le communisme et la révolution, c'est avant tout que ce soit depuis le point de vue du révolutionnaire lui-même ou celui de la machine qui va les broyer, une suite de faits et gestes, en réalité,
je pense surtout ces personnages, comment dire, oui, il n'y a aucune dimension psychologique. Je crois que Danilo Kiche ne les juge pas, ni ne les justifie pas non plus. C'est plutôt leur seule raison d'être, c'est dans un scénario qui est écrit, effectivement, qui ne peut amener qu'à cette fin tragique, ces gens-là, leur seul mérite qui apparaît, c'est d'avoir agi, justement. D'avoir agi sans se poser de questions, sans se poser la question de savoir s'il était possible de faire autrement, parce que clairement, il n'est pas possible de faire autrement, sans se poser la question de savoir si c'est bien ou mal, la question n'est pas là. Dans ce scénario écrit d'avance, la seule manière de vivre, c'est finalement d'accepter, de rentrer dans le scénario et d'essayer d'y tenir un rôle. Par rapport à ce que disait Olivier Maillard sur Scheherazade, Conte des mille et une nuits, ça serait du Scheherazade très sec, très dépouillé. En même temps, il y a aussi quelque chose dans la narration qui, moi, m'évoque la manière dont on raconte des histoires de manière générale dans les Balkans. La forme de l'ellipse où on part de quelque chose pour évoquer beaucoup d'autres aspects et sans procéder par déduction logique ou avec une construction rationnelle comme les Français prétendent le faire. Une manière spontanée qui est beaucoup plus narrative et qui est aussi la manière dont les gens, je pense, parlent, racontent leur vie, racontent des histoires dans les Balkans. Et ça aussi, c'est quelque chose sans aucun... vraiment, c'est réduit à la trame, à l'essentiel. Il n'y a pas de gras à l'essentiel de l'action. En même temps, ça prend toujours cette forme aussi de l'ellipse, comme le disait Pascal Delpech.
Sur l'ellipse, et puis pour revenir sur l'action, c'est un des aspects, je trouve, frappants du livre par rapport à d'autres romans qui traitent de cette période des années 30, de l'entre-deux-guerres, des mouvements révolutionnaires. Je pense à la condition humaine de Malraux, ou même à la partie finale de Gilles de Drieu-La Rochelle, où on a toujours un moment où deux révolutionnaires ou deux militants fascistes ou je ne sais quoi, ils s'assoient et pendant 10, 30, 40 pages, ils vont disserter sur l'idéologie, le sens de l'histoire, etc. Et cette dimension est complètement évacuée de manière tout à fait sensible. Le côté un peu explicatif qu'on a dans le roman français des contemporains de ces moments-là. Et à mon avis, Gilles, comme La Condition humaine, ont par ailleurs de grandes qualités romanesques, plus peut-être Les Conditions humaines, mais en tout cas, enfin, Gilles, c'est pas rien non plus. Mais on voit dans ces moments-là qu'il y a un côté très théâtral, très, enfin, assez faux, en fait. Et pour le coup, c'est complètement évacué. Et donc, la question était sur l'ellipse, par ailleurs. Oui, alors, sur l'ellipse, effectivement, ben, je pense que ça, il y a même un sens ironique et comique, presque, de l'ellipse dans le roman. Parce que, effectivement, alors, ça rejoint peut-être des us et coutumes, des traditions, des manières de raconter. Mais ça fait vraiment apparaître à vif les retournements de situation, les moments de renversement, celui qui est au sommet, ben, l'image de la roue qui se retrouve tout en bas. Et il y a une cruauté de l'ellipse, une ironie, un humour de l'ellipse dans le roman qui est assez remarquable. Effectivement, on tourne la page et celui qui vient d'en envoyer au goulag se retrouve à son tour au goulag.
Nous allons entendre un deuxième extrait du Tombeau pour Boris Davidovitch, traduit par Pascal Delpech et lu par la comédienne Élodie Hubert.
Prudente reconstitution. Je vois Verskoil quitter Malaga à pied, vêtu d'un manteau de cuir pris à un phalangiste. Sous le manteau, il n'y avait qu'un maigre corps nu et une croix d'argent pendant à un cordon de cuir. Je le vois attaqué à la baïonnette, soulevé par son propre cri comme par les ailes de l'ange exterminateur. Je le vois hurler pour couvrir les clameurs des anarchistes dont le drapeau noir flotte dans la vallée dénudée autour de Guadalajara et qui sont prêts à périr d'une mort sublime et insensée. Je le vois sous un ciel incandescent, quelque part près d'un cimetière des environs de Bilbao, écouter des exposés dans lesquels on départage, comme à la création du monde, la vie et la mort, le ciel et la terre, la liberté et la tyrannie. Je le vois vider des chargeurs entiers en l'air sur les avions impuissants et s'écrouler immédiatement après couvert de feu, de terre et de shrapnel. Je le vois secouer le corps sans vie de l'étudiant Armand Geoffroy qui meurt dans ses bras quelque part près de Santander. Je le vois aux portes de Gijón, couché dans un hôpital improvisé, la tête enveloppée de pansements sales, écoutant le délire des blessés dont l'un appelle Dieu en irlandais. Je le vois parler avec une jeune infirmière qui le berce comme un enfant en lui fredonnant une chanson dans une langue inconnue de lui et la regarder ensuite grimper dans le lit d'un Polonais amputé d'une jambe avant d'entendre à moitié endormi et abruti de morphine un douloureux râle d'amour. Je le vois quelque part en Catalogne, dans un état-major improvisé, assis au télégraphe Morse, répétant des appels au secours désespérés tandis que la radio, depuis le cimetière voisin, diffuse des chansons anarchistes gays et suicidaires. Je le vois souffrant de conjonctivité de diarrhée. Je le vois, torse nu, se raser près d'un puits dont l'eau est empoisonnée.
Absolument magnifique, ouais. Cet extrait de cette nouvelle, une truie qui dévore sa portée, ouais. Ce personnage de Verschoeven, donc irlandais pendant la guerre d'Espagne. Et là, on entend bien ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire cette sensation ça, d'événements les uns après les autres. Ouais. Et comment on décrit la guerre par voilà, des phrases, point. Et cette anaphore de « je le vois ». Là, l'auteur lui-même qui l'imagine, en fait, ouais. Ce révolutionnaire. Et puis on sait comment ça se termine, c'est-à-dire que toute cette épopée, micro-épopée, peut-être on pourrait appeler ça comme ça, Olivier Maillard. On sait là où elle va se terminer.
Oui, effectivement, il y a un côté micro-épopée. Ça fait penser, je ne sais plus si c'est dans le Résidu amer de l'expérience ou dans Homo Poeticus, donc soit un recueil d'entretiens, soit un recueil d'articles de Danilo Kish, où il évoque et dit mais si Flaubert avait écrit de manière plus concentrée Bouvard et Pécuchet ou tel autre ouvrage, on n'aurait pas eu à attendre un siècle de plus ou un demi-siècle pour avoir Borges. Et là, il y a dans cette image de l'épopée effectivement réduite à une suite de flash de plans de cinéma pratiquement où à chaque fois on voit la scénette effectivement puis on enchaîne déjà sur une autre qui permet ces ruptures de ton dont on parlait hein, la diarrhée qui apparaît au milieu d'eux, des massacres etc. On a effectivement une sorte d'épopée miniature et avec cette sécheresse hein, du couperet de la succession des images qui produit évidemment une très grande force pour le lecteur.
Oui, je crois que dans ce petit livre, nous disions qu'il n'y a pas tellement de pages. Quelque chose qui est remarquable dans l'écriture, c'est cette espèce d'effet de martèlement, disons, qui se répète, et qui est comme ça, cette densité, cette rapidité, cette fureur, cette cruauté. Ça se répète, ça donne un rythme, mais aucune des nouvelles n'est semblable. Et ça, pour y arriver avec autant de variété d'une nouvelle à l'autre, mais d'abord de les relier, comme on l'a dit, de façon subtile. Et c'est fort pour moi.
Ça l'est. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce destin commun un peu à tous ces personnages? C'est-à-dire que là, on a entendu ce combattant irlandais qui s'en va dans la guerre d'Espagne. On peut dire qu'il finira mal, mais bien loin de l'Espagne ou de l'Irlande. Est-ce que ce qui rejoint pas aussi toutes ces histoires, c'est un rapport à l'illusion? C'est-à-dire justement, ces personnages sont plongés dans quelque chose, dans la cause. Ils se battent, alors on voit, ils souffrent, ils sont blessés, ils combattent pour ce qu'on pourrait appeler peut-être entre guillemets le bien ou un bien. Et puis tout cela se révèle être juste une illusion. Et c'est ce par quoi ils croyaient même faire le bien qui va les broyer. Olivier Maillard.
Il y a le fait que dans l'histoire qui s'intitule Un tombeau pour Boris Davidovitch, Hamlet et donc Shakespeare soient mentionnés me semble effectivement tout à fait symptomatique d'une logique presque baroque. C'était effectivement, on est dans un monde d'illusions, un monde instable, un monde où le temps est sorti hors de ses gonds. Et on voit des personnages effectivement se fourvoyer, ce qui pour le coup est assez brechtien. On voit l'aveuglement en fait des héros en permanence, on voit en permanence qu'ils se fourvoient. Et c'est une manière de... c'est là où le roman d'ailleurs touche à l'universel, c'est-à-dire qu'il nous dit quelque chose de l'expérience communiste ou stalinienne, de ses vides révolutionnaires, mais ce faisant, il touche à quelque chose de l'expérience humaine qui a à voir effectivement avec l'illusion sur ses convictions, sur ce qu'on croit faire quand on agit, sur la manière dont on croit agir quand on agit même, et qui ne cesse de nous renvoyer, nous, à cette impression de faux, d'erreur, d'illusion généralisée, aussi bien du côté du pouvoir, avec le procès notamment de Davidovitch, les faux aveux, les faux témoignages, enfin tout ce monde travaillé par le faux, et du point de vue des convictions de ces différents héros et de leur manière d'habiter dans le monde, dans l'illusion en fait.
Jean-Arnaud Derain, c'est quelque chose de... d'anti-partisans, c'est-à-dire d'anti-esthétique, justement, de l'héroïsme des partisans. On a l'impression que là, tous les combattants, et c'est peut-être pour ça aussi que ce livre a été un peu subversif, c'est que ces combattants, pour le communisme, pour la liberté, ils finissent tous broyés, soit par l'illusion du pouvoir, soit par l'ordre lui-même.
Ils finissent tous mal, ça c'est certain. Je suis pas tout à fait à l'aise avec le terme d'illusion. Je pense plutôt que ce que décrit ce roman, c'est sept chapitres de l'histoire, c'est cette époque, une violence extrême des années 30, de la montée du fascisme, de l'instalinisation de l'URSS. Et dans ce contexte-là, encore une fois, jamais Danilo Kiss ne juge l'engagement de ces gens. En tout cas, ils agissent. Et en agissant, ils vivent. Même si, bien sûr, le terme est marqué, déjà écrit d'avance, et ça se terminera mal. Mais néanmoins, ils agissent. Donc je suis un petit peu mal à l'aise comme ça avec l'idée d'illusion. Ensuite, là où vous avez raison, bien évidemment, c'est une remise en cause de l'idéologie, de l'héroïsme des combattants, des partisans. Il faut rappeler que dans cette Yougoslavie socialiste de Tito, il y avait, comment dire, l'aristocratie, c'était bien évidemment les anciens partisans, et l'élite de l'aristocratie, c'était les anciens d'Espagne. Le passage qui était lu était justement, durant la guerre d'Espagne, les plus grands vétérans, les plus prestigieux, les plus respectés étaient ceux qui avait combattu en Espagne, donc qui était déjà communiste dans les années 30, et il y a eu énormément de Yougoslaves qui ont combattu en Espagne, beaucoup y sont morts, après ceux-là ont bien sûr combattu ensuite dans la résistance des partisans yougoslaves eux-mêmes, et ont eu le plus souvent des fonctions importantes dans l'État et dans le parti. Donc, bien sûr, en évoquant la réalité de la guerre, de la merde, de la diarrhée, de la conjonctivite, et des amputations et tout ce que vous voulez, bien évidemment, Danilo Kiss s'inscrit en porte-à-faux par rapport à la vision classique de l'héroïsme du combattant. Ça, c'est évident. En même temps, je ne suis pas convaincu que sur ce point-là, il a été totalement novateur. Enfin, je pense qu'il y a d'autres écrivains qui ont aussi évoqué, je pense en Yougoslavie, j'ai cherché des exemples. Je pense pas que c'était le premier à parler de cette violence extrême et que même si la cause est juste, elle se défend aussi d'une manière souvent tragique et sordide.
On va écouter de nouveau Danilo Kiss nous parler d'un tombeau pour Boris Davidovitch.
Alors à la question « Pourquoi vous exposez-vous volontairement au danger d'une pensée hérétique ?», le juif de Pamir répond « Parce que je veux vivre en paix avec moi-même et non avec le monde ».
Et je vous dirais que c'est une phrase qui a été prononcée par un grand poète hongrois, de Petőfi, ouais, qui a dit cette phrase et qui m'a influencé, enfin, qui était pour moi quelque chose de formidable. Vous savez, il était mort, enfin, quand il avait 20 ans d'années, dans une bataille contre les Cosaques. Et justement, il a dit, à l'époque, parce qu'il était bien attaqué par tout le monde, il a dit justement cette phrase qui m'a influencé, qui est devenue une sorte d'exorgue, si vous voulez, de ma vie.
Vivre en paix avec vous-même.
Avec moi-même.
C'est fait ou c'est possible?
Oh, c'est très très difficile, c'est très très difficile. Donc, vous voyez, j'ai mis donc une phrase d'un poète révolutionnaire hongrois dans le cadre du 14e siècle en Pamiers, dans un roman qui parle du temps moderne. Et justement, vous voyez, là c'est le jeu littéraire, mais donc tout est authentique, même cette phrase.
Vous avez l'impression d'avoir fait un autre bond en obtenant ce grand prix, qui est le plus grand prix du festival, l'Aigle d'Or. Pour la Yougoslavie, c'est bien, c'est la reconnaissance d'un écrivain. C'est surtout la reconnaissance d'un écrivain, beaucoup plus que la récompense elle-même.
Oui, bien sûr, d'un écrivain. En plus, je viens d'apprendre qu'un autre écrivain yougoslave a reçu un prix de la presse internationale, qui s'appelle Mićunović, c'est un ancien ambassadeur de Yougoslavie en Moscou, qui a écrit ses mémoires. Et il a eu la récompense de la presse internationale. Donc nous sommes, disons, à la mode à ce moment-là.
Nous allons entendre encore Danilo Kiss, cette fois-ci au micro de Radioscopie, et Jacques Chancel en 1980. Vivre en paix avec soi-même et non avec le monde. Mettre une phrase d'un poète révolutionnaire hongrois dans la bouche d'un juif du 14e siècle à Pamiers dans un roman qui parle des temps modernes. Est-ce que c'est pas ça, justement, la définition parfaite de ce que c'est qu'un tombeau pour Boris Davidovitch?
Oui, c'est une formule assez saisissante, hein, et synthétique de ce projet, de ce temps hors de ses gonds, justement, de ces blocs de temps qui se heurtent et qui permettent de dire la violence de ce qu'il souhaite raconter.
Non, mais je pense que la relation à l'histoire est assez surprenante, parce qu'à la fois, il y a une extrême précision dans toutes les descriptions, tous les contextes. On est dans une écriture extrêmement documentée, extrêmement précise. Et en même temps, l'idée n'est pas non plus de dire que le temps serait un perpétuel recommencement. C'est, je pense, plus subtil que cela. C'est plutôt des schémas qui sont présents, qui se répètent, mais qui ne veulent pas dire que le temps, lui, n'avance pas et que tout serait voué à un éternel recommencement. C'est un petit peu plus complexe tout de même, je pense. Mais en même temps, il y a ces télescopages de la violence qui sont extraordinaires.
C'est surtout sa façon de travailler qu'on voit là, vraiment, c'est-à-dire réutiliser finalement le temps dans la littérature. Bah, pourquoi pas m'approprier une phrase de Petofi pour la mettre dans la bouche d'un juif de Pamiers. En réalité, c'est l'immense liberté de Danilo Kiss qu'on voit là. On va écouter une petite chanson hongroise que je crois vous connaissez, Pascal Delpech.
Oui, en effet, c'est une chanson que Danilo chantait beaucoup. C'est une chanson qui a une histoire tout à fait particulière. C'est un pauvre chanteur autodidacte qui chantait dans un petit café de Budapest avant la guerre et qui a créé une chanson qui s'appelle « Sombre dimanche » parmi d'autres. Et ça a été vraiment un hit, comme on dirait maintenant, extraordinaire en Hongrie. Et les gens se précipitaient dans ce pauvre petit café, aussi bien les grands de ce monde que les aristocrates, que les gens riches, que tout le monde s'y précipitait, les militaires, les civils, pour écouter uniquement cette chanson. À tel point qu'il a pensé qu'il ne pourrait plus jamais en écrire, tellement ce succès était grand. Mais il s'est trouvé que pas mal de gens désespérés, comme il y en a beaucoup dans la plaine pannonienne et en Hongrie, le taux de suicide est très élevé là-bas, dans leurs lettres d'adieu avant de se suicider, parlaient de cette chanson. Donc la chanson a été interdite et il l'a chantée en cachette dans ce même café. Puis dès qu'on quelqu'un faisait signe qu'un contrôle arrivait, il se mettait à chanter des tchardaches à toute allure sur son violon. Et finalement, il a été caché pendant la guerre et il s'est suicidé en 1968 dans la plus grande pauvreté. Mais la chanson est mondialement connue et a été interprétée par beaucoup d'autres chanteurs après lui au long des décennies.
On va l'entendre donc dans sa version hongroise et puis en français chantée par Damia dans les années 30.
Szomorú vasárnap száz fehér virággal vártalak kedvesem templomi imában. Álmokat kergető vasárnap délelőtt bánatom hintaja nélkül
sombre dimanche, les bras tout chargés de fleurs, je suis entrée dans notre chambre, le cœur là, car je savais déjà que tu ne viendrais pas, et j'ai chanté des mots d'amour et de douleur. Je suis restée toute seule et j'ai pleuré tout bas en écoutant hurler la plainte des frimas. Sombre dimanche, je mourrai un dimanche où j'aurai trop souffert. Alors tu reviendras, mais je serai parti. Des cierges brûleront comme un ardent espoir. Et pour toi, sans effort, mes yeux seront ouverts. N'aie pas peur, mon amour, s'ils ne peuvent te voir. Ils te diront que je t'aimais plus que ma vie. Sombre dimanche.
France Culture, les romans qui ont changé le monde. Mathias Sénard.
Ce livre a aussi son roman. Vous savez, ça veut dire on pourrait écrire, enfin je l'ai écrit déjà si vous voulez, c'est mon livre qui a paru en Yougoslavie après. un livre qui s'appelle « Une leçon d'anatomie » qui est une sorte de polémique. Voilà, je vous dirais d'abord que c'était un livre qui était bien accepté par les lecteurs au commencement, bien qu'il y avait déjà des bureaucrates, des gens qui m'ont dénoncé en disant que c'est un livre dangereux parce que c'est un livre anticommuniste, antisocialiste, etc. Mais ils n'osaient jamais le dire ouvertement. Ils ont cherché de petits tueurs qui vont faire ce boulot, n'est-ce pas, de détruire le livre et l'auteur.
Vous avez été menacé ?
Oui, justement, j'étais menacé parce que c'est une menace si on dénonce un livre comme un livre anticommuniste et antisocialiste dans un pays socialiste, c'est clair. Mais bien sûr que c'était pas ceux qui ont fait le bruit, mais ceux qui ont dirigé ces bruits, et c'était pas, il faut le souligner, c'était pas les dirigeants, enfin, c'était pas une attaque officielle. C'était toujours assez sournois tout ce qui se passait, le premier temps. Le deuxième temps, c'était que ce livre n'est pas original, parce que, d'abord, j'ai pas vécu tout cela, parce que je suis très jeune pour ça. Comment est-ce que j'ai pu trouver tous ces documents, toutes ces données? Et en plus, c'est pas un livre original, c'est presque un plagiat, parce qu'il y a les données qu'on connaît déjà. Parce qu'évidemment, ce que j'ai attendu d'être attaqué, qu'on va me dire que tout cela n'existe pas ou n'existait jamais.
Il n'y a pas d'hôpitaux psychiatriques, il n'y a pas de goulag.
Il n'y a pas de goulag, il n'y avait pas de destin comme ça, il n'y avait pas tout cela. Et donc, je m'ai bien documenté, j'ai fait ce qu'on connaît, n'est-ce pas, la technique de montage, n'est-ce pas, des documents de vrais, d'authentiques, de faux, j'ai inventé, j'ai mis des vrais, des faux, etc. Et après, il y avait un grand procès de plagiat, de non-originalité, etc., mêlé avec les choses politiques, mais c'était mené par certains écrivains, certains bureaucrates qui étaient bien cachés.
Attachés au parti.
Ah, bien sûr, mais c'était pas officiel. En tout cas, même officiellement, j'étais défendu officiellement, mais il y avait tout le temps des attaques assez sournoises.
Nous venons d'entendre Daniel Okich, toujours au micro de Jacques Chancel, en 1980, au moment où il reçoit le prix de l'Aigle d'Or à Nice, parler de la sortie de la publication du tombeau pour Boris Bavidovitch en Yougoslavie et de la polémique qui a suivi, polémique suivie de procès, de très nombreuses actions extrêmement violentes contre Okich et son livre. Comment expliquer cette histoire, Jean-Arnaud Derrens? Comment expliquer qu'un tombeau pour Boris Bavidovitch ait pu déclencher de telles actions violentes?
Alors déjà, il faut rappeler tout de même, on est dans un cas un petit peu particulier, ce que Daniel Okich lui-même décrit très bien dans l'entretien qu'on vient d'entendre. Imaginez, un tel remords est bien sûr était totalement impubliable, inconcevable en Union soviétique ou dans un pays satellite. Là, on est dans un pays socialiste où il y a un roman qui est tout de même extrêmement dur sur ce combat pour le communisme, sans le remettre en cause sur le fond, encore une fois, parce que tous ces personnages, ils ne les jugent pas, ils sont des communistes honnêtes, mais enfin bon, le résultat c'est quand même que tout ça se termine toujours extrêmement mal, et l'auteur de ce roman, on ne l'envoie pas au goulag, pour le coup, on l'accuse au nom d'une accusation formelle, d'avoir fait du plagiat. Bon, c'est un petit peu la différence. En Union soviétique, il aurait lui-même fini au goulag. Là, on l'a accusé de plagiat. Ce qui montre bien, je dirais, la position très particulière, très ambiguë de cette Yougoslavie. Mais c'est vrai que le roman, quand il est sorti, est arrivé à un moment où il a servi, je dirais, de prétexte et de révélateur à beaucoup de contradictions dans le Parti communiste, surtout de Serbie, mais plus largement dans tout l'État fédéral, des contradictions qui allaient s'exacerber, bien évidemment, dans les 15 années qui suivent la publication du roman et qui amènent jusqu'à la dislocation de cet État. Toute cette histoire est assez étrange. C'est un livre qui ne parle pas une seule fois formellement de la Yougoslavie, dont l'auteur n'est pas attaqué pour déviation idéologique, mais pour des raisons formelles, et qui est, de manière évidente, un signe avant-coureur de l'éclatement bien réel de l'État. Tout cela est assez paradoxal, tout de même. Peut-être que Pascal, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur le procès.
Oui, je crois qu'en dehors du contexte dont vous parlez très bien, je crois qu'il y a aussi la personne de Daniel Okich qui gênait depuis longtemps. Donc, ces trois premiers livres avaient été très bien acceptés, mais ils parlaient du fascisme. Donc, ils étaient, comme beaucoup d'autres œuvres qui étaient publiées en Yougoslavie, tant qu'on attaquait les fascistes, ça allait bien. Là, tout d'un coup, Kish se met à attaquer, enfin, parler négativement d'un système soviétique et socialiste. Donc, ça, c'est déjà beaucoup moins bien pour certaines personnes qui sont en Yougoslavie. Et ça arrive à un moment où Kish est déjà, depuis longtemps, une personne qui n'appartient à aucun groupe, aucun parti, qui est totalement indépendant, qui parle librement, qui écrit librement, qui est accusé de cosmopolitisme, d'être vendu à la France et à d'autres pays d'Occident. Enfin, bon. Donc, ça vient après tout ça, qui existe comme ça sourdement depuis très longtemps, et ce livre arrive comme ça, et même s'il est salué par certains critiques, l'affaire se déclenche en quelques mois et va durer plusieurs années, et il y aura ce procès, etc. etc. Donc il y a bien sûr le contexte, ça c'est sûr, il y a le livre, et il y a aussi la personne de Daniel Okish.
Donc ce procès, c'est pour avoir plagié qui et quoi, en fait, en réalité?
Alors, Réo, évidemment, qui est une histoire de l'art russe. Voilà. Les frères Medvedev, qui avaient fait un livre sur Staline. Carlo Steiner, surtout, qui a donc passé de nombreuses années au Goulag et qui avait écrit 7000 jours au Goulag, que Daniel Okish a fait traduire en français. Enfin, il a tout fait pour que ce soit traduit en français, et ça a été traduit en français. Il a fait une préface. Donc ça, ce sont les trois sources principales dont Okish s'est revendiqué, mais dès le premier jour, avant même que le livre sorte. Il disait qu'il utilisait...
Il connaissait d'ailleurs Carlo Steiner.
Il connaissait Carlo Steiner. Il le connaissait. Il était en contact avec lui. Il est allé le voir à Zagreb. Carlo Steiner lui a fait remarquer des petites choses réelles, des objets. Là, c'était pas du plastique, c'était je sais pas quoi. Et là, Danilo a développé pour lui son idée que du moment que c'est crédible, même s'il y a des erreurs pratiques, techniques, lui, ce qu'il veut, c'est que l'histoire soit crédible, que les lecteurs qui le lisent le croient, même si c'est imaginé. C'est pour ça qu'il mélange le faux, le vrai, qu'il trafique, qu'il le manipule, etc. Mais le résultat doit être absolument crédible pour la situation, pour l'histoire, pour le destin des personnages. Donc voilà, on a trouvé, comme dit Jean Arnaud de Reims, cette histoire littéraire de plagiat pour essayer d'abattre un homme et un écrivain qui gênait beaucoup, et avec beaucoup de pression, avec des visites de la police, enfin bon, voilà.
Parce qu'il était à Belgrade à ce moment-là.
Il était à Belgrade à ce moment-là, et il est parti 2 ou 3 ans après en France, et il a vécu les 10 dernières années de sa vie à Paris, où il est mort.
Olivier Maillard, sur ce destin justement du tombeau pour Boris Davidovitch, qui reste un peu comme étant quand même une des étoiles de cette littérature de l'époque, et justement, alors les romans changent-ils le monde? Je sais pas. En tout cas, s'il y a un roman ou un récit qui change notre vision du combat communiste dans les années 30, c'est bien un tombeau pour Boris Davidovitch.
Tout à fait. Et ce qui est fascinant dans cette accusation de plagiat dont on vient de parler, c'est qu'on l'a accusé d'avoir justement emprunté des sources, de les avoir trafiquées, etc. Alors que tout ce qu'il fait, il a un usage... On disait tout à l'heure effectivement que les destins qui sont racontés ne sont pas, même s'il y a un jeu à la Borges sur la répétition à travers les âges, ne sont pas évidemment... On n'est pas enfermé dans l'idée, comme il y aurait chez Borges, que l'histoire n'existe pas. L'histoire existe, et notamment les années 30 existent. Or, justement, il s'attaque à un pouvoir qui est quand même passé dans l'histoire comme le grand champion de la falsification, des archives, des sources, etc. Et lui-même a un usage très ludique, en fait, des références, des archives, comme on dit, il en invente, il en met des vrais, etc., pour créer cet effet de très forte vraisemblance et pour produire un ouvrage qui, à la fin, est presque, oui, le reflet exact de ce qu'il a en ligne de mire.
Un mot pour conclure, Pascal Lépech.
Oui, c'est quand même, malgré tous ces problèmes, le livre de Kish qui l'a fait connaître... et qui est le plus lu, après avoir été publié en 76 en Yougoslavie, il a été publié en 78 aux États-Unis, en 79 en France, en 80 en Italie. Et ce qui est intéressant, c'est le seul de tous ces livres précédents qui, jusqu'à la chute du mur, n'a pas été publié dans les pays du bloc de l'Est, mais il existait en samizdat. Il y avait des samizdat dans tous ces pays. Par contre, pour la Russie, j'ai dû batailler jusqu'en 2017, où il a enfin été publié, et en Chine en 2014.
Comme quoi, les choses changent, les livres restent. Merci beaucoup Pascal Delpech, merci Jean-Arnaud Derens, merci Olivier Maillard de nous avoir accompagnés dans cette émission consacrée à Un tombeau pour Boris Davidovitch de Danilo Kiche. Une émission réalisée par Laure-Hélène Planchet avec Dofar Guéry de la technique aujourd'hui. Merci à Pierre Chabert qui m'a aidé à la préparer. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour notre station suivante dans les romans qui ont changé le monde, consacrée à Enfance de Nathalie Sarraute. À demain.